Jules Lhermina, la deux fois morte. À peine eus-je posé le pied sur la terre de France, au retour de la longue mission qui m'avait retenu pendant près de 3 années dans l'Extrême-Orient, que je me mis en route pour le coin de Cologne, où étaient cloîtrés mes amis. J'avais la guerre trouvé assez étrange, cette idée de s'aller enfermer avec une jeune femme, presque une enfant, dans une solitude morose, et cela dès le lendemain d'un mariage, que j'avais d'ailleurs fort approuvé en raison de la camaraderie qui avait uni enfants, ce qui devenait époux. Je les avais dès lors surnommés Paul et Virginie, et je continuerai à les désigner ainsi, estimant que l'impersonnalité convient au fait singulier dont je veux dans ce récit conserver le souvenir. De 10 ans plus âgé que Paul, je m'étais toujours intéressé à son caractère. Sa nervosité excessive souvent m'avait effrayé, quoique en somme ne me paraît exercer sur ses actes aucune influence mauvaise, et ne se traduisit d'ordinaire que par une rare ténacité de volonté. J'ai toujours eu grand goût pour les sciences naturelles, avant même que l'éducation et les circonstances aient fait de moi le très modeste savant que je suis. Mais je n'ai jamais été doué que d'une mémoire très relative. Ce qui me fait surtout défaut, c'est la mémoire dite visuelle. Par exemple, si je rencontre dans mes excursions de botaniste quelques fleurs dont l'éclat ou l'originalité de structure m'enchante, il m'est presque impossible, une fois dans mon cabinet, de reconstituer en image cérébrale la silhouette ou la couleur qui m'ont ravi tout à l'heure. Il en allait tout autrement de Paul. S'était-il trouvé avec moi au moment de l'observation ? Le lendemain et même plusieurs jours après, il me suffisait de lui rappeler le moindre détail pour qu'aussitôt, du crayon et du pinceau, il reproduisît avec une étonnante exactitude, dans les plus minutieuses particularités, la plante qui avait attiré mon attention. Bien plus, ses yeux, qui devenaient fixes et regardaient droit devant la lui comme s'ils eussent percé la muraille pour retrouver le modèle, avaient dans leur étonnante faculté de vision rétrospective visée, reconnu, conservé des accidents de tissu ou de teinte qui m'avaient échappé. À ce point qu'il m'arrivait d'aller vérifier par moi-même s'il n'obéissait pas à un jeu de sa fantaisie. En ce sens, jamais je ne le pris en défaut. Aussi, lorsque je le conduisais au théâtre, à la ville voisine du château qu'habitait sa famille, pendant plusieurs jours, je le surprenais immobile, étranger à tout ce qui l'entourait. À mes questions, il répondait qu'il était occupé à revoir la pièce vue. Si je le pressais, alors qu'il me peignait d'une voix lente et recueillie toutes les péripéties théâtrales le rendant une vie que nous aurions qualifiée de factice, mais qui pour lui, je l'ai compris depuis, était absolument réelle. Ces facultés exceptionnelles ne firent que se développer avec l'âge. Je pourrais dire qu'il vivait 2 fois chaque jour de sa vie, occupant son lendemain à revivre la veille. Peut-être plus exactement ne vivait-il que la moitié d'une vie, dépensant l'autre à se souvenir. Oserais-je tout avouer ? Dans ces étrangetés, on craint toujours, quelle que soit sa conviction et sa sûreté d'intellect, de passer pour un imposteur ou pour une dupe. Ce qui dépasse la limite de ce qu'on appelle le possible, comme si on en pouvait fixer la mesure, apparaît toujours au vulgaire comme le produit d'une imagination malade ou imbécile. Un jour, Paul avait alors 15 ans, et cette faculté de recommencement s'affirmait en lui de plus en plus. Il me rappela un mendiant que nous avions rencontré ensemble, tellement sordide et malingreux que jamais Callot ni Goya n'eussent désiré modèle plus réaliste. Très affiné, poussant même la délicatesse jusqu'à la fêterie, il avait horreur de ces types dégradés par la misère et l'ivrognerie. Celui-ci, à qui il avait jeté une aumône, lui avait causé un profond dégoût et je puis dire que sa mémoire en était hantée. Je m'en apercevais et je m'efforçais de détourner le cours de ses méditations. Mais toujours il me répondait, Oh, que veux-tu? Je le vois, il est là. Et il ajouta, en me prenant brusquement le bras, nous nous trouvions alors dans un coin assez sombre du parc, mais il est impossible que tu ne le voies pas toi-même. En vérité, pendant une espèce de temps qui fut infiniment court, je ne pourrais trouver de terme d'exacte fixation. Je vis, oui, je vis à quelques pas de nous, le mendiant, gibbeux, loqueteux, hirsute. Je le vis positivement en sa forme, en sa couleur, apparition et disparition instantanées. Très peu sentimental de ma nature et peu disposé à admettre l'inexplicable, je m'irritais contre moi-même, attribuant à ma complaisance pour ce névrosé l'influence presque fascinatrice qui m'avait dominé, et je me promis de ne plus prêter tant d'attention à des songeries morbides. Sans grande fortune ayant à me créer une position, il ne m'essayait pas de jouer avec mon cerveau. Virginie était orpheline de père et de mère. Elle avait été recueillie par sa famille maternelle, oncle et tante qui l'élevaient comme leur propre enfant. Ce n'avait pas été tâche facile, car c'était bien la plus fragile créature qui se pût imaginer. De 5 ans plus jeune que Paul, elle paraissait encore une enfant alors qu'il entrait déjà hardiment dans l'adolescence. Nous l'appelions Petite Mab, tant sa gracilité, son aériformité, si je puis employer si grand mot pour si petite personne, rappelait la fée écossaise née d'un rayon de lune. Je me souviens de la première apparition de cette aimable poupée dans la maison de Paul, où je remplissais d'abord le rôle assez ingrat de précepteur, devenu plus tard un compagnon et un ami. Et je dis que Paul, orphelin lui-même, habitait chez une cousine éloignée, à qui restait seule la force, étant à demi paralytique, d'aimer et d'être indulgente. C'était par une de ces matinées d'été où le ciel se nimbe d'une buée blanche, avec de vifs piquetages d'argent. Nous étions dans le jardin, juste au-devant de la vieille maison qu'égayaient des lancers de vignes vierges et de glycines. La grille extérieure, sur la route, était restée entrouverte après la sortie de quelques fournisseurs. La malade était étendue sur sa chaise longue, souriante avec cette expression d'aménité naturelle à ceux qui, ne pouvant plus vivre, se complaisent à voir vivre les autres. De la grille, le panneau plein, inférieur, était assez élevé. Nous avions installé une table au bord d'un massif où déjà perçaient les pointes roses des silènes, et accoudés, nous étudions la concentration d'esprit nécessaire à des problèmes les plus ardus de Vronsky, cet étrange savant dont Lagrange disait qu'il avait inventé toutes les mathématiques et qui a créé pour sa démonstration une langue de toutes pièces, indéchiffrable pour les non-initiés. J'avais besoin de condenser toute mon attention pour conserver mon attitude de maître, car avec Paul, doué d'une merveilleuse intuition, je craignais fort parfois de descendre au rang d'élève. Il y a quelqu'un derrière la grille, me dit Paul. Ceci, mais d'une voix posée, calme, comme s'il eût énoncé le fait le plus simple du monde. Je tournai la tête et mes yeux rencontrèrent le soubassement de la grille, plein et large. De l'autre côté, fis-je, on ne peut pas voir à travers le métal. Mais je ne dis rien de plus, car je m'aperçus alors que d'une giration très lente, la grille tournait sur elle-même. Paul tenait ses regards dans cette direction et ses yeux, dont je connaissais si bien les nuances, avaient une étonnante fixité. Enfin, l'arrivante, car c'était une petite fille, se révéla tout entière. Quand l'ouverture fut assez large pour qu'elle se glissât, elle se mit à courir, comme obéissant à une attraction violente, et ne s'arrêta qu'à 1 mètre de Paul, le regardant avec une expression à la fois soumise et heureuse, qui me fit sourire. Mademoiselle de B, la cousine de Paul, considérait elle aussi cette apparition blonde, rose, jolie, qui semblait une épave échouée de quelque féerie shakespearienne. C'était la petite voisine à laquelle sa tante avait dit « Va donc faire un petit tour !» Elle était sortie de la propriété qui jouxtait celle de Paul, puis tout naturellement, voyant une porte entr'ouverte, l'avait poussée. Elle avait alors 12 ans. Mademoiselle de B, regrettant peut-être son célibat, était bonne aux enfants. Aussi de ce jour, Virginie eut-elle droit de citer chez elle et en usa souvent, plus que souvent. Une indéfinissable sympathie l'attirait vers Paul. Dans quelque coin du parc il se trouva, et le jardin était vaste, et le bois aussi, tout droit elle arrivait à lui, comme si de partout elle l'apercevait, et elle s'arrêtait devant lui, souriante et mignarde. Un jour, quand notre grande surprise, l'heure de sa visite quotidienne était passée depuis longtemps, Paul, engagé dans une dissertation des plus suggestives sur la prononciation du C dans les langues prélatines, eut un mouvement d'impatience et s'écria vivement « Mais pourquoi ne vient-elle pas? Je veux qu'elle vienne !» Quelques secondes s'écoulèrent, puis j'entendis un bruit de pas précipité et d'une touffe de mimosa, l'enfant ayant coupé à travers les massifs, surgit très pâle. En même temps accourait l'oncle. « Mais il n'y a pas de bon sens » s'écria-t-il. « Comprenez-vous cette petite qui est souffrante et que nous retenions à la maison ? Elle s'est échappée de ses mains, de nos mains, et s'était lancée dehors. Oh, nous savions bien que nous la retrouverions ici. » Entre ces deux êtres-là, chose ne pouvait être discutée, existait une attraction intéressante qui se développait chaque jour davantage. L'âge vint. Paul avait alors 23 ans, Virginie avait atteint sa 18e année. Mon élève n'avait fait dans les sciences pratiques que des progrès très relatifs. Tout ce qui était de connaissances courantes, quotidiennes, lui était plus qu'indifférent et, dans sa prodigieuse mémoire, on aurait pu le taxer d'ignorance sur plus d'un point. Par contre, il possédait à un degré étonnant les facultés spéciales qui ont fait des mondeux et des inaudits de véritables prodiges. La mémoire persistante des formes, de l'expression graphique des choses, s'accroissait. Il semblait aspirer les images extérieures pour les emporter dans le laboratoire de sa pensée et les étudier à loisir. Mais, et ici je puis à peine rendre l'idée qui s'impose à moi en cette sympathisation qui unissait les deux jeunes gens, Paul s'emparait de Virginie. Il la conquérait, il se l'appropriait. J'avais suivi jour par jour, minute par minute, ce sentiment qui était bien l'amour, en sa hantise complète et délicieuse, mais avec un caractère tout spécial. Lui ne vivait que pour elle, mais elle ne vivait que par lui. Même s'il était absent, elle restait imprégnée des effluves dont il l'avait enveloppée. Elle absente, il la gardait près de lui, et je l'avais bien des fois surpris, lui parlant comme si elle avait été à ses côtés, et comme je le raillais de sa méprise. « Mais comment se peut-il, disait-il en pointant son doigt dans le vide, que vous ne la voyez pas, elle est là !» Phrase d'amoureux, c'est possible. Mais dès lors, un instinct m'avertissait qu'il y avait là autre chose, comme une évocation à la fois intérieure et extérieure de l'objet qui remplissait sa pensée et qui, pour lui seul, se matérialisait hors de lui. Je dis « pour lui seul », n'osant pas encore affirmer davantage. La bonne mademoiselle de B avait suivi avec intérêt les progrès de cette affection qui pour elle ne présentait aucun caractère mystérieux. Paul était riche, ses goûts et ses aptitudes le destinaient évidemment à la vie placide de la campagne. L'oncle de Virginie était mort, sa tante était valétudinaire. Il parut donc très naturel que Paul manifestât la volonté d'épouser son amie, et toute convenance de famille et de situation se trouvant réunie, aucun motif n'existait de contrecarrer ses désirs. Pour moi, cette union était de longue date indiquée. J'avais compris que Paul ne serait jamais apte à prendre un rôle dans la vie active. Étant rêveur, tout chez lui évoluait dans le sanctuaire intérieur. Le dernier des niais, manœuvre de la civilisation, aurait eu raison de son inexpérience. Quant à Virginie, elle ne s'appartenait plus. À mesure que leur intimité s'était resserrée, elle s'était pour ainsi dire anéantie en lui, d'abord de sa propre volonté, et aussi, surtout peut-être, en raison de cette mainmise qu'il exerçait sur son être moral, et qui était une possession anticipée, plus absolue que celle du mariage. De lui à elle, il y avait échange, flux et reflux de vitalité. Il faisait plus que de s'appartenir, ils s'absorbaient l'un dans l'autre. Ce mariage, véritable consécration, dans le sens pur et élevé du mot, eut lieu. De ma vie, je n'oublierai la cérémonie nuptiale, lumineuse et rayonnante, qui le fit pour jamais, je le croyais alors, compagnon de joie et de peine, uni pour le bonheur comme pour le malheur, ainsi que dit la liturgie calviniste. Sous le faisceau de raies tombant des vitraux, j'eus un instant cette illusion que ces deux êtres, par un effort de synchronatisme, se fondaient en un seul. Il y avait en ce moment équilibre entre ces deux créatures qui se donnaient l'une à l'autre avec une naturelle abnégation du soi. Au matin même de la cérémonie, j'avais accepté une mission en Orient avec obligation de départ immédiat. Il me plaisait, ayant été témoin de leur bonheur naissant, de n'en point gêner l'éclosion de ma présence. Pour sortir de l'église, je fis mes adieux, et serrant leurs deux mains qui se mêlaient dans les miennes, je ne pus pas discerner quelle était celle de l'un ou de l'autre. Je leur jetai un dernier signe d'adieu, convaincu d'ailleurs que tôt ou tard la vie pratique s'emparerait de mes deux héros de féerie, qui, rentrés dans la norme des banalités sociales, vieilliraient en bons époux prosaïquement assagis. Une lettre trouvée à Hong Kong ébranla mes espérances. Il s'en était allé se blottir au fond de la Sologne, où, paraît-il, il vivait complètement seul, heureux de n'entendre aucun écho de la vie vraie. Je répondis par des souhaits de bonheur, certes bien sincères. Un an après, au pays de Laos, je reçus une lettre de Paul. Elle me frappa par son étrangeté. Si bizarre qu'elle soit, elle doit faire partie de cet écrit qui est une sorte de dossier. Je la transcris donc textuellement. Ami, te souviens-tu de l'intéressante étude qu'un jour tu me fis entreprendre du deuxième chapitre de la Genèse, alors que, grâce aux lumineuses restitutions de Fabre d'Olivet, se voyant de la linguistique, nous avions suivi pas à pas le mystérieux travail de la nature créatrice, cherchant le fait sous le symbole, le sens matériel, sous l'énigme ésotérique. Parvenus au sublime verset qui, en quelques mots, manifeste la création de la femme, de l'Aïcha, de l'Ève, nous nous étions arrêtés, hésitant devant la suggestion intime et profonde que nous sollicitait, à reconstituer cette scène dont la beauté dépasse les rêves les plus enthousiastes de l'imagination. Nous passâmes outre, mais j'avais gardé dans l'oreille, comme un écho qui ne devait plus jamais s'éteindre, le cantique rayonnant de l'Adam Cadmon s'écriant « Voyomer ha-adam zoat !» Celle-là est réellement substance de ma substance et forme de ma forme. Ce nom d'Aïcha, formule véritable de la volonté dont la femme était la réalisation, me hantait comme l'énoncé d'un problème à la solution toujours refusée. Or, cette solution, avec quelle gloire je l'ai trouvée! Toi seul, peut-être, pourras me comprendre, parce que ton intellect évolue sur le plan supérieur de l'intuition. Rien ne me paraît à moi plus évident et plus clair, vois plutôt. En l'homme, représentation concrète de l'humanité collective, toutes les aspirations existaient à l'état latent, et pour se manifester n'attendaient que l'effort volitif, si je puis dire, la poussée du dedans au dehors. L'homme Adam, alors mâle et femelle, jouissait égoïstement de la nature extérieure, s'épanouissant dans l'éblouissement des splendeurs. Et plus il admirait de beauté, et plus il avait soif de la beauté. Et cette beauté suprême à laquelle il aspirait, il ne la voyait pas, puisqu'elle était en lui, dans sa double nature encore inséparée. Comprends-tu ce supplice ? Sentir en soi la beauté, l'amour, en posséder la notion, la sensation intime, et de les pouvoir contempler face à face, de les pouvoir étreindre. Songe à ce qu'éprouverait l'avare qui aurait un lingot d'or dans la poitrine et ne pourrait s'arracher le cœur pour le posséder. En vain autour d'Adam s'épandaient les immensités vibrantes, en vain flamboyaient les astres, en vain poudroyaient les nébuleuses, en gésine des autres mondes. Et qu'était tout cela auprès de ce qu'il désirait, la compagne, la suprême beauté? Ceci est le texte même, qui, devant émaner de lui, alors seulement lui présenterait le reflet de sa sensation intime. Et ce fut dans une de ces crises de désir sublime et torturant que s'accomplit le miracle de l'extériorisation de la beauté et de l'amour, qui étaient en lui et qui jaillirent de lui en la forme idéale, grâce et harmonie condensée, en l'être qui était vraiment substance de sa substance, essence formellement radieuse de l'humanité triomphante, la femme. Et l'Adam Cadmon s'agenouilla devant elle, reconnaissant de l'exquise souffrance de l'arrachement, et il balbutia le premier hosanna d'amour. Ayant l'esprit positif, je ne me suis jamais plu à ces rêveries aiguës d'une imagination surexcitée. En dirigeant Paul dans ses études d'hébraïsant, mon seul dessein avait été de lui donner la notion claire et non routinière de la science des racines et rien de plus. Si Fabre d'Olivet m'intéresse comme linguiste, j'ai toujours voulu, et je veux, m'arrêter en deçà de ses hypothèses théosophico-bouddhiques. Aussi éprouvais-je un réel chagrin en constatant que mon élève non seulement s'entichait de ses chimères, mais encore en exagérait les outrances. Je lui répondis quelques mots en ce sens, insistant sur les dangers que peuvent faire courir à la raison ces fantaisies dont le moindre défaut est de détourner l'esprit de préoccupations plus pratiques. Je comptais d'ailleurs sur le mariage et sur la paternité pour donner à son activité morale une pâture plus substantielle. Mal être parti, j'eus même quelques remords, craignant, à cause de ses susceptibilités un peu maladives, d'avoir donné à mes conseils un tour trop ironique. Après tout, ne poursuivais-je pas ma chimère, moi aussi, en mes recherches sur les peuples préhistoriques, identifiant aux Cimmériens d'Hérodote les anciens Khmers du Cambodge? L'hypothèse est la grande charmeuse et qui n'a pas poursuivi sa trace folle ignore les plus grandes joies humaines. Finalement, après 3 ans d'absence, je me décidai à rentrer en France, fort riche d'ailleurs de notes et de documents à l'appui de mes thèses favorites. Revenu dans nos ports coloniaux, j'éprouvais une véritable déconvenue à ne point trouver la lettre de Paul. Était-ce donc que je l'eusse blessé par quelques railleries inoffensives ? J'en aurais été mari et je me promis bien, une fois débarqué, de m'expliquer avec lui et de lui arracher, s'il le fallait, à coup de mea culpa, un amical pardon. Je pris juste le temps nécessaire pour régler à Paris quelques affaires indispensables. Puis, sans prévenir d'ailleurs celui que je comptais surprendre en plein bonheur, je m'installai dans un wagon filant sur Vierzon. Je m'arrêtai, selon les indications que m'avait données Paul, dans une de ses premières lettres, à la station de Salbris, au gros bourg, dont le nom est lié à l'un des épisodes les plus honorables de la guerre de 1870. Je me hâtai d'entrer à l'auberge pour y commander un fruit gras le repas. On touchait à la fin du mois d'octobre, et les journées, devenues courtes, me conseillaient d'arriver le plus tôt possible au château de Pierre-Sèche, où demeuraient mes amis. J'avais encore 5 heures devant moi. Je manquis d'une voiture qui me fut procurée avec la meilleure volonté du monde. « Où va monsieur ?» demanda l'aubergiste. Je lui nommai le château que j'ai dit. L'homme prit une figure contrite. « Oh, c'est à plus de 4 lieues en plein marais, sur la rive gauche de la Sauldre, me dit-il. » J'avais remarqué le changement de sa physionomie. Je ne m'imaginais pas que ce fût la distance ou la mauvaise qualité des terrains qui l'eussent provoqué. En une vague inquiétude, je repris. « Sans doute vous connaissez les propriétaires. » Cette fois, son embarras fut indéniable. Ah, « Monsieur veut parler de Monsieur Paul X. »« En effet, oui, je suis un de ses amis. » J'arrive d'un long voyage et il me tarde de lui serrer la main. Ah, monsieur arrive de voyage, alors il ne sait peut-être pas. Quoi donc ? Ben, que monsieur Paul ne reçoit jamais personne et que nul ne se peut vanter de l'avoir vu depuis plus de 6 mois. Ah, c'est une grande pitié, monsieur, une vraie pitié. Que voulez-vous dire ? Il est arrivé quelque malheur ? Ben, quand je disais que monsieur ne savait pas, la pauvre petite dame, elle est morte. Morte ? M'écriai-je avec une angoisse profonde. Quoi, vous voulez parler de la femme de Paul, de cette chère et exquise créature ? Oh, monsieur a bien raison, ça a été une grande perte pour le pays. Vous croirez si vous voulez, monsieur, mais tout le monde l'aimait et la plaignait aussi, car elle a été longue à dépérir. Elle était si faiblotte. Voyez-vous, le château est mal placé, et on y a des fièvres. Je comprends pas que M. Paul ait amené là une femme délicate comme ça. » Ainsi, c'était bien elle qui était morte. Jamais je n'avais ressenti heurt plus douloureux. Sa brutalité m'avait littéralement suffoqué, et des larmes tombèrent de mes yeux. « Ah, je vois que monsieur est un ami, » reprit l'hôte. « Je n'aurais peut-être pas dû lui dire la chose tout nettement, mais monsieur l'aurait bien vite apprise. Est-ce qu'il faut toujours commander la voiture ?»« Oh, certes, » m'écriai-je, « et pourquoi non ? Est-ce que quand nos amis sont dans la douleur, qu'il les faut abandonner ? Ah, plût à Dieu que je fusse revenu plus tôt. J'aurais peut-être empêché cet horrible malheur. » « Oh, c'est douteux, monsieur, car la petite dame était bien malade. » Je dois dire aussi que monsieur Paul l'a soignée. Ah, tenez, c'était beau et douloureux en même temps. Jamais il ne la quittait, et quand il se promenait, lui la soutenant, vrai, on aurait dit qu'il la buvait des yeux. Il aimait bien aller. Aussi on comprend son désespoir. Depuis le jour où on a porté la pauvre dame en terre avec tout le pays derrière, et des vrais pleurs, comme les vôtres de tout à l'heure, M. Paul s'est enfermé chez lui, et Plus jamais, vous n'entendez plus jamais, il est sorti de pierre sèche. Les détails étaient navrants. Paul vivait seul dans ce château qui, disait-on, serait son tombeau comme il avait été celui de sa chère femme. Il n'avait avec lui qu'un vieux domestique qui lui aussi, c'était l'expression de l'aubergiste, filait un mauvais coton. Et puis il y avait autre chose. J'eus quelque peine à obtenir de mon interlocuteur qu'il s'expliquât plus clairement. De fait, cela lui était assez difficile. Naturellement, partout où la mort passe, elle laisse un sillage d'effroi. Et voilà que des bruits étranges s'étaient répandus dans le pays. On parlait de lumières fantastiques apparaissant la nuit aux fenêtres du château. Une femme qui avait été engagée pour des services d'intérieur s'était refusée à revenir, déclarant qu'elle ne rentrerait pas dans une maison que hantaient les revenants. Oh, l'aubergiste ne croyait pas un mot de ces folies. Mais peut-on empêcher le monde de parler ? Aussi n'était-il pas bizarre qu'un homme de l'âge de Paul se cloîtrât ainsi ? Il s'était absolument refusé à recevoir personne, même des gens bien intentionnés, qui auraient voulu lui apporter des consolations. La porte leur était impitoyablement fermée. Le vieux Jean, c'était le nom du domestique que je connaissais bien, bousculait les gens d'un air égaré. C'était à croire que lui-même devenait fou. « Enfin, monsieur, continuait le brave homme, si vous voulez entrer dans ce château de malheur, je crois que vous en serez pour votre peine. »« Bon, j'essaierai quand même, repartis-je. » Au fond, je ne doutais pas que je ne dusse être reçu. Connaissant l'exquise délicatesse de Paul, je ne m'étonnais pas outre mesure d'une claustration qui expliquait suffisamment un désespoir aussi justifié. Je le verrai, je lui parlerai. Je parviendrai à galvaniser cette âme engourdie, à revivifier ce cœur mort. C'était ma tâche d'ami, et je ne m'y soustrairai pas. Vous souvenez-vous de la phrase glaciale d'Edgar Poe ? Comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en face de la mort de mes eaux chères. Je ne sais comment cela se fit, mais au premier coup d'œil que je jetais sur elle, une intolérable tristesse pénétra mon âme. Cette réminiscence, la maison chère, m'obséda pendant toute la route, alors que sous la lourdeur grise de cette soirée d'automne, je suivais, blotti dans la voiture que conduisait un silencieux Solonio, jauni par d'anciennes fièvres, la route bordée de marécages qui, sur la rive gauche de la Saulne, conduisait à la pierre sèche. Mon conducteur n'était pas de ceux qu'on interroge et dont on quête les racontars. C'était d'un de ces non-pensants qui répugnent à toute expansion intellectuelle. Il allait droit devant lui, sans regarder de côté ni d'autre, ruminant quelque chose de sa mâchoire prognate et lourde. Cette société nulle ne me déplaisait pas, laissant intacte ma rêverie qui peu à peu se condensait en somnolence. Pourtant, je n'avais pas fermé les yeux. Entre mes paupières mi-closes passait la lande mate et grise, où parfois éclatait le reflet d'acier d'une mare, cinglée d'une lame. Sur la route dure, les roues allaient sans bruit, tandis que le cheval s'étirait, silhouette macabre. Je ne pourrais dire que la route me sembla longue, car je n'avais plus aucune notion du temps, non plus que la claire compréhension des choses. J'étais pris tout entier dans l'étau d'une angoisse inanalysée, mais si serrante que j'en étais étouffé. Et dans la plaine vide et plate, entre les étangs, plaques noirâtres sur une peau d'une bistre sale, j'allais toujours, sans savoir où, instinctivement inquiet. Ce fut alors que le ressouvenir de la maison Huchère plus despotiquement s'imposa, quand, en face d'une flaque d'eau, plus large de quelques mètres, à l'entrée d'un pont de bois que fermait une grille, l'homme se retourna et, parlant pour la première fois, dit « La pierre sèche !» Je fus éveillé en sursaut. Pour un peu, j'aurais demandé ce que pouvait m'importer la pierre sèche. Mais une impression me saisit bien différente de celle que j'attendais. De l'autre côté de l'étang, dans lequel dormaient de longues herbes, oscillant de leurs grappes ainsi que les épis mûrs, se dressait au sommet d'un monticule de quelques pieds et qui semblait de rocailles et de mosaïques, une sorte de castel dont une aile se projetait en face de moi, hardiment découpée sur le ciel que rougeoyait le soleil couchant. À la visure de la morte maison Huchère qui devait paraître, en mes prévisions attristées, comme la face d'un hypochondriaque se substituait, un profil élancé avec je ne sais quel raffinement d'élégance. Des vignes folles à aigrettes rouges couraient le long des murs, ayant pour canevas les nervures du lierre accrochées au silex, broderies de pourpre sur velours vert. Cette forme s'enveloppait d'une buée claire, irisée, qui estompait les contours et atténuait les angles. En ma disposition d'esprit, ce tableautin me ravit, à la fois inattendu et charmant. Cependant, l'homme restait, attendant que je me décidasse à descendre. Je compris que, son office rempli, il s'étonnait que je ne lui rendisse pas sa liberté. Il n'avait pas à compter avec mes fantaisies d'imagination. Je sautai sur le sol et je lui tendis une pièce de monnaie. Alors, lui dis-je, ceci est bien le château de pierre sèche. Puisque je vous l'ai dit. Merci donc, vous pouvez retourner à Salbrice. Il me regardait de ses yeux sans couleur. Je crus qu'il n'était pas satisfait. « N'est-ce pas le prix convenu ?» demandai-je. « Si, mais voici la grille, il y a une sonnette. » Bon, il estimait que son devoir était de ne pas m'abandonner que lorsque je serais entré. Mais justement dans mes vagues pressentiments d'un silence singulier, il ne me plaisait pas de le rendre témoin peut-être d'une déconvenue. « Allez, lui dis-je, ne vous occupez plus de moi. » Alors il se décida, le cheval tourna, s'allongea, partit. Je restais seul en face de la grille. Elle barrait toute la largeur du petit pont dont j'ai parlé et dont le tablier sans balustrade ne pouvait être atteint du dehors. Au-dessous, l'étang immobile et moussu. Au-delà, une allée gravissait le monticule, puis disparaissait en se contournant. Les fenêtres, où j'en comptais trois, qui faisaient face à l'étang, étaient closes. Les ombres des vignes et des lierres noircissaient les vitres. On eût dit des yeux très noirs voilés de cils. J'eus la sensation qu'il me regardait. Mais alors, si quelqu'un de l'intérieur avait constaté ma présence, pourquoi nul ne se présentait-il à la grille ? Je me dis alors que j'étais bien fou de raisonner et que vraiment je me créais à loisir des impressions de mystère puisqu'il y avait une cloche et une chaîne. Je donnai une secousse. Je vis la cloche s'élever et s'abaisser. Elle était d'un assez fort calibre et un instant je craignis d'avoir sonné trop fort, mais elle ne tinta pas. Je récidivais, même résultat. Le battant avait été enlevé. Ceci me contraria, car cette hypothèse se présenta pour la première fois à mon esprit, que je me trouverais, la nuit venant, stupidement arrêté à cette porte, ayant manqué le but de mon voyage et presque perdu dans un pays que je ne connaissais pas. Cependant, je ne me tins pas pour battu. Je m'éloignai un peu, m'efforçant de voir quelque chose dans le château ou dans le petit parc. il n'y avait pas apparence de vie ni de mouvement. Je suivis l'étang, pensant à le tourner et à atteindre aux pierres sèches par quelque autre point, mais je m'aperçus bientôt qu'il enveloppait la propriété de tous les côtés. L'espèce de rocher sur lequel le castel était construit formait une île véritable. De plus, le terrain était marécageux à ce point que je risquais à chaque pas de m'enliser dans la vase. Il faut avouer que ma situation était assez étrange, voire ridicule. Je me trouvais en pleine France, à la porte d'un ami, 100 fois plus embarrassé que je n'aurais été en pays barbare. Le pire, c'est que la tension cérébrale qui m'énervait nuisait à la lucidité de mon esprit, et que j'eus grand-peine à trouver un expédient, pourtant d'une imagination bien simple. La cloche n'avait pas de battant, mais elle existait. De plus, elle était fixée au poteau même de la grille. En dedans, il est vrai, mais non hors de portée. Je me hissai au barreau d'une main, et de l'autre, brandissant ma canne, j'assénais sur le métal un coup vigoureux. Ah, cette fois, je fus servi à souhait. Le son vibra très clair, et le succès couronna mon ingéniosité tardive. À peine 2 minutes s'étaient-elles écoulées, que je vis quelqu'un paraître au bout de l'allée qui descendait du tertre. Seulement le personnage, qui sans doute était en défiance, me parut placer ses mains au-dessus de ses yeux pour examiner l'intrus, puis avec de grands gestes très significatifs, lui enjoindre de s'éloigner. Ceci ne faisait pas mon affaire. Je compris que si l'homme disparaissait, il me serait inutile de le rappeler de nouveau. Et me souvenant que, d'après l'aubergiste, le seul habitant de la maison avec mon ami était son vieux serviteur que j'avais fort bien connu naguère, j'appelais de toutes mes forces « Jean ! Hé Jean ! C'est moi !» Et le « c'est moi » n'étant pas suffisamment suggestif, je lançai mon nom à plein poumon. Victoire ! Je ne m'étais pas trompé. L'homme dévala rapidement, atteignit le petit pont, arriva à la grille et me dit « Vous, c'est bien vous ! Ah, quel hasard, mon Dieu ! Mais pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?»« Tôt ou tard, répliquai-je, me voici. » « Ouvre cette porte, mon brave, et si je puis rendre ici quelques services, tu sais que l'on peut compter sur moi. » Jean était un vieillard presque septuagénaire, maigre et voûté. De la main, il me fit signe de modérer les éclats de ma voix. « Écoutez, me dit-il, j'ai l'ordre formel absolu de ne jamais laisser entrer personne, mais vous, c'est autre chose, je prends sur moi de violer ma consigne. » « Seulement promettez-moi de m'obéir. Oui, oui, je dis de m'obéir. Il y a eu de la mort ici, et je suis pas sûr qu'il n'y en ait plus. » L'accent du bonhomme respirait une émotion profonde. Je fis de mon mieux pour lui donner confiance. La grille s'ouvrit et j'entrai. « Voyez-vous, reprit-il, avant tout il faut que je vous parle. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. » Vous êtes plus savant que moi, vous comprendrez peut-être. Moi, j'ai bien peur que mon pauvre maître ait la cervelle détraquée. Non, pas par là, fit-il brusquement au pied du château. Faut pas qu'il vous voie. S'il se doutait que vous êtes ici, peut-être qu'il s'enfuirait. Suivez-moi, et dans un instant, nous allons être tranquilles. Il prenait les plus grandes précautions pour ne faire aucun bruit, et je l'imitais. Nous atteignîmes une petite porte, seule ouverture sur la façade de l'ouest, et nous nous trouvâmes dans une sorte d'office, de fruitier plutôt. La nuit était presque complète. « Asseyez-vous, me dit Jean. Je vous demande pardon de vous recevoir ainsi, mais il faut. Il le faut, répéta-t-il en secouant la tête. Je vais voir si tout est en ordre et surtout... s'il ne se doute de rien. J'étais impatient. Après tout, je connaissais assez mon ami Paul pour ne rien redouter d'une première entrevue. Dût-il avoir, en me revoyant, une crise de désespoir, je prendrais sur lui l'empire nécessaire, et même cette explosion, trop longtemps contenue, lui serait salutaire. Jean revint bientôt. « Monsieur ne s'est aperçu de rien. Il est dans son cabinet, comme toujours, à 7 heures. En voilà pour jusqu'à demain matin. Nous sommes seuls, bien seuls, nous pouvons causer. Tenez, je me demande maintenant si vous avez bien fait de venir. »
Or que j'ai eu tort ou raison, repris-je assez vivement, c'est ce qu'il sera temps d'examiner lorsque je t'aurai entendu. Dès maintenant, je puis t'affirmer que je saurais bien soustraire Paul à cette abominable tristesse. Nous étions dans l'ombre et je distinguais à peine la physionomie du vieux Jean. Pourtant, je le vis se dresser avec un sursaut de surprise.
Triste ? Fit-il. Mais qui vous a dit que Monsieur Paul fut triste ?
Bon, n'est-ce pas naturel après l'affreux malheur qui l'a frappé ?
Ah oui, eh ben non, c'est pas ça, vous y êtes pas, mais pas du tout. Attendez que je fasse de la lumière. Je suis pas poltron, ayant été soldat, mais ici j'aime pas rester dans la nuit.
Je commençais à me demander si le vieillard avait lui-même son bon sens, et si, en me parlant du cerveau détraqué de son maître, il ne lui attribuait pas sa propre faiblesse d'esprit. La lampe allumée, je le regardais. Il était très robuste. Les traits jadis grossiers s'étaient affinés sous la patine de l'âge. Les yeux étaient clairs, très droits. « Voyons, mon brave, lui dis-je avec rondeur, ni toi ni moi ne sommes des enfants, nous savons ce que sont les douleurs humaines et combien elles peuvent troubler les âmes les mieux organisées. Vous menez ici une vie solitaire qui n'est pas faite pour vous éclaircir les idées. Moi, j'arrive la tête fraîche et l'intellect bien équilibré. Allez, dis-moi ce qui se passe, après quoi j'aviserai. » Jean s'était assis en face de moi, sans façon, les mains sur les genoux.
« Oui, monsieur, je vous connais, pour un homme de sens, de cœur aussi. Sans cela, vous ne seriez pas entré. Mais il y a ici des choses dont vous ne pouvez pas avoir idée, et vous n'aurez besoin ici aisé que vous le croyez. Ça ne m'étonnerait pas que vous repartiez sans l'avoir essayé. »
Allons donc, Paul est vivant, c'est le principal. Est-il malade, nous le guérirons, est-il fou?
Ne faites donc pas de suppositions, laissez-moi tout vous raconter. Ne m'interrompez pas, j'ai déjà assez de peine à assembler tout ça dans ma tête.
Le meilleur moyen d'en finir était de le laisser parler à sa guise. Je me tins quoi? Des premiers temps du mariage, il ne m'apprit rien qui me surprit. Virginie adorait son mari, dans la saine et profonde acception du mot. Il lui rendait cette affection avec une nuance très accentuée de domination aimante, absorbante aussi. Ces deux êtres étaient l'un pour l'autre tout l'univers. Leur entente était si parfaite, il y avait adaptation si complète de leurs deux natures, qu'à vrai dire, c'était le mot de Jean, ils ne faisaient qu'un à eux deux. L'intimité de leur conscience rendait presque inutile l'emploi des paroles. On les voyait pendant de longues heures se contempler sans dire un mot.
« On aurait dit qu'ils parlaient pas, » continuait Jean. « Mais je suis sûr qu'ils causaient. Ils s'entendaient en dedans. Bien souvent, madame me donnait un ordre qui venait de monsieur, j'en étais sûr, et pourtant, il lui avait rien dit, elle l'entendait penser. »
Ce qui ressortait de ces observations, plus subtiles que je ne les eusse attendues d'un ignorant, c'est que Virginie avait abdiqué toute volonté et toute initiative. L'amour avait produit ce phénomène que son individualité s'était fondue en celle de Paul.
Ce que je vais vous dire va vous paraître drôle, mais il me semblait qu'elle ne se donnait même plus la peine de penser. Sa voix n'était qu'un souffle, comme s'il lui était inutile de parler. Bien plus, je dirais qu'elle disparaissait physiquement. Oui, quand je la regardais, je me faisais cette idée qu'elle s'effaçait, comme ces photographies qu'on a laissées au soleil et qui s'en vont.
Bref, sous les circonlocutions un peu phraseuses de Maître Jean, il était évident que la pauvre Virginie avait été atteinte d'une maladie d'épuisement, anémie, phtisie, je ne pouvais pas préciser. Il me parut que le bon serviteur, de par l'intérêt qu'il portait à ses maîtres, les avait vus sous des couleurs quelque peu fantastiques. Il n'y avait là que des faits douloureux, mais parfaitement naturels. Peut-être la passion de Paul n'avait-elle pas été assez ménagère des forces de la pauvrette. Le positif, c'est qu'elle était morte, et je m'irritais involontairement de la prolixité du bonhomme alambiquant des incidents trop explicables. Enfin, repris-je avec une impatience mal contenue, la pauvre Virginie déclina de plus en plus, et Paul eut la douleur de la perdre. Ah, je ne doute pas de l'intensité de son désespoir.
Oh, pendant le premier mois, monsieur, il fut comme assommé. Il passait ses journées immobiles, étendues, les yeux fermés, pâle comme la morte qu'on avait emportée.
Et cet état s'est compliqué d'une prostration toujours plus grande, si bien qu'aujourd'hui...
Mais non !»
s'écria Jean, en essayant de m'imposer silence avec de grands gestes.
« Monsieur ne me laisse pas parler !» Évidemment, il croit que je veux lui en imposer. Vous supposez que M. Paul est triste, désespéré, et que c'est pour ça qu'il veut recevoir personne. Mais vous vous trompez du tout au tout. M. Paul n'est pas triste, il n'est pas malade. C'est tout autre chose.
Mais encore, explique-toi donc.
Environ un mois après la mort de madame, comme j'entrais un matin dans la chambre de monsieur, je fus tout surpris de voir qu'il ne s'était pas couché. Le plus étonnant de tout, c'est ceci, oui, il souriait pour la première fois depuis longs, longs jours. Il mangea beaucoup avec un appétit que je ne lui connaissais plus, il but même, à mon avis, plus que de raison. Puis, à la fin du repas, il tomba dans un sommeil si profond, si rapide surtout, que je le laissai étendu sur le canapé et me retirai discrètement. Plusieurs fois dans la journée, je montais pour m'assurer qu'il n'avait besoin de rien. Il dormit ainsi jusqu'au soir. Enfin, il s'éveilla et je lui conseillai de se mettre au lit. J'admettais fort bien que le désespoir l'eût brisé au point de lui imposer un repos de 24 heures. Mais il me répondit assez vivement que j'eusse à lui épargner mes conseils. Tout ce qu'il me demandait, c'était de ne monter dans son appartement sous aucun prétexte, à moins d'appel. Je me le tins pour dit et depuis ce jour-là, jamais je ne suis entré chez mon maître de 6 heures du soir à 10 heures du matin.
Et que fait-il pendant ce temps ?
Oh, le sais-je ! Toujours est-il que sa vie est ainsi réglée. À 10 heures du matin, il sonne. Je viens dans sa chambre. Il est debout, toujours souriant, avec une expression de bonheur, qui a quelque chose de surnaturel ou presque d'effrayant. Son cabinet est toujours fermé à clé. Et jamais depuis 5 mois, je n'y ai pénétré. Après le repas, il s'étend sur le canapé et s'endort. Vers 5 heures, il sonne de nouveau, me donne quelques ordres. Je me retire et c'est tout.
Ceci commençait en effet à me paraître singulier et présentait les symptômes d'un dérangement d'esprit. Ah, tu me dis que Paul paraît heureux, joyeux. Jamais il ne reçoit personne. Oh là, je ne puis vous en répondre. Le matin, je guette les fournisseurs, je les attends devant la porte pour qu'ils ne sonnent pas. J'avais enlevé le battant, j'ôterai la cloche elle-même. En somme, repris-je avec assurance, il me semble qu'il y a amélioration dans son état. Il boit, il dort. Je ne vois plus que cette manie de claustration et aussi ce renversement des habitudes normales qui le fait dormir le jour, éveillé la nuit. Quel est son état physique? Est-il faible ou fort? Vigoureux ou anémié? Mais il y a quelque chose qui m'épouvante, c'est sa pâleur. Et puis, faut-il que je vous avoue tout ici? Jean baissa la voix. Je crois, oui, je crois bien qu'il... Et sans prononcer le mot, il leva le pouce au-dessus de ses lèvres. Ah, ce serait plus affreux que tout le reste, m'écriai-je. Mais tu sais bien, je suppose, s'il te demande de l'eau de vie, de l'absinthe. Non, c'est pas cela. Il me fait apporter qu'une liqueur que je ne connais pas, d'un goût et d'une odeur si fort. Tenez, j'en ai là un flacon que je lui montrai demain matin. Le flacon était bouché à l'émerie, mais l'odeur caractéristique me frappa aussitôt. C'était de l'éther. Je frissonnais. Dans l'Extrême-Orient, j'ai rencontré des buveurs d'éther, et jamais l'ivresse ne m'est apparue plus meurtrière. C'est plus que de l'empoisonnement, c'est la combustion lente, irrésistible, corrodant tous les organes. Mais si tu dis vrai, tu as dû remarquer en lui des tremblements nerveux. Son haleine doit être imprégnée de cette odeur. Non, j'ai rien remarqué de cela. Du reste, sa chambre ne sent pas cette odeur-là. Je crois bien la reconnaître à travers la porte de son cabinet. Ceci me déroutait un peu. Bon, fis-je encore, on se guérit de toute passion mauvaise. Je comprends tes inquiétudes, mon ami, mais j'espère pouvoir les dissiper avant peu. Je verrai ton maître, tu vas lui annoncer mon arrivée avec telle précaution que tu jugeras nécessaire. Sois tranquille, je saurai bien faire excuser ta désobéissance. Je reprendrai sur lui l'influence que m'assure mon amitié et mon sang-froid. Ne perdons pas une minute. Monte, mon cher Jean, je t'attends ici. Mais, loin de m'obéir, Jean secouait la tête. « Pourquoi hésiter? Tu ne te doutes pas de l'affection de Paul pour moi? Il ne reçoit personne, soit, mais moi !» Jean s'était levé, déambulant par la chambre, en proie à un visible embarras. Comme je le regardais curieusement, me demandant quelle lubie nouvelle le troublait. Soudain, il s'arrêta devant moi, et me fixant de ses yeux grands ouverts, « Monsieur, pas ce soir, j'ai serré demain à 10 heures, mais pas ce soir. » « Et pourquoi ?»« Ben parce que... » Il sembla rassurer tout son courage. Parce que la nuit, il n'est pas seul. Hein ? Fis-je en bondissant sur mon siège. Ah, voilà, maintenant vous vous demandez si le vieux Jean n'est pas fou, foualié. Voyons, croyez-vous de bonne foi que je n'ai pas cherché à me rendre compte ? Je suis un homme et un domestique, il ricana. Croyez-vous que je n'ai pas espionné mon maître ? Ah, espionnage très honorable, puisqu'il n'a d'autre but que son intérêt. Mais enfin, pour qu'il ne soit pas seul, il faudrait que quelqu'un se fût introduit dans le château, et tu m'affirmais. Mais alors, courbé vers moi, Jean me dit des choses si bizarres que je l'écoutais comme dans un cauchemar, et ces choses étaient telles que je me décidai à ne faire cette nuit-là aucune tentative pour voir Paul. Il fut convenu que je serais annoncé le lendemain à 10 heures.